Les langues se délient. Parole à l'étranger.
J'ai marché jusqu'à vous.
Ils sont albanais, burkinabés, maliens. Je vais à leur rencontre et on discute un moment.
Salut à toi, ô mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'algérien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan, salut à toi.
Dans notre émission Parole à l'étranger, je suis content aujourd'hui de rencontrer Issa.
Oui, bonjour, moi aussi, Issa. Bonjour.
Issa, on vient à l'instant, là, à la communauté Emmaüs de Servaz, de pratiquer un jeu qui s'appelle le parcours du migrant, et tu as été le grand gagnant de ce parcours du migrant. Veux-tu nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant ce jeu pour toi?
Alors, d'abord, je vous remercie d'abord pour venir nous faire découvrir ce jeu, parce que j'ai vu que ce jeu, ça nous apprend beaucoup de choses. Et nous, les migrants, ça nous permet de voir un peu comment ça se passe les choses. Et ceux qui ne sont pas dans notre situation aussi, ça leur permet de comprendre notre parcours. Donc du coup, j'ai bien aimé le jeu.
Alors, on a vu que sur ce parcours, donc, ça représentait 10 personnes qui venaient de 10 pays différents. Et pour certains, c'était vraiment la galère. Hein.
Bah oui, c'est un parcours qui est vraiment hallucinant. Oui. Oui.
Alors, rappelle-nous, toi, au départ, donc, tu étais dans la peau d'un instituteur du Mali.
Oui, du coup, dans le jeu, moi, j'étais un instituteur au Mali. Bon, vu le conflit, et la population de mon village a décidé de cotiser pour payer un billet pour que j'effectue le voyage en France pour me protéger. Donc, du coup, j'étais là. Donc, du coup, je voulais faire venir mes filles et c'est comme ça que ça a commencé.
Oui. Alors, est-ce que tu as vu des parallèles avec ta propre histoire, toi?
Je peux dire que oui, je ne suis pas loin du... Bon, le Mali, ça fait frontière à mon pays. Et je peux dire que oui, il y a un peu de similarité, mais il y a des divergences à certains niveaux, mais oui. Oui.
Alors, est-ce qu'on peut reprendre, quand tu es parti de ton pays, c'était quelles conditions qui t'ont fait partir?
Ce sont des conditions aussi de la guerre. Et j'ai dû fuir pour venir me réfugier en France. Et malheureusement, j'ai pas encore eu le statut de réfugié. Oui.
Oui. Donc, en arrivant en France, tu as fait une demande pour...
Oui, j'ai arrivé en France. D'abord, pour arriver en France, j'ai fait un parcours tellement compliqué. Et arrivé en France, j'ai fait une demande. Et malheureusement, ma demande a été rejetée.
Oui. Et alors, raconte-nous. Donc, quand on fait une demande et que la demande est refusée, qu'est-ce que tu fais après? Tu as fait appel?
Oui, j'ai fait OFPRA, ça n'a pas marché. J'ai fait appel à la CNDA et malheureusement, mon dossier n'a pas été retenu.
Alors, pour nos auditeurs, pour préciser, quand tu dis que tu as fait une demande donc, à l'OFPRA, ça se passe comment? Donc, l'OFPRA, c'est l'Office français pour les réfugiés et les apatrides.
Exactement.
Et donc, comment ça s'est passé pour toi là-bas?
L'OFPRA... J'ai été convoqué et je suis venu, j'étais en face d'un officier de l'OFPRA qui m'a interviewé. Et je lui ai expliqué mon histoire, pourquoi je suis venu en France, comment je suis venu et ma situation. Et c'est comme ça s'est passé.
Oui. Ça veut dire que cet officier, il fallait que tu arrives à le convaincre, mais il ne t'a pas cru.
Oui, j'ai été sincère. Oui. J'ai été sincère dans mes propos, mon histoire. Je ne sais pas si c'est ma sincérité qui m'a piégé ou quoi. Parce que moi, je ne sais pas trafiquer mon histoire. J'ai dit tel que mon histoire s'est déroulée et je ne voulais pas en ajouter dessus. Et je ne l'ai pas convaincu.
Donc, pour préciser, l'OFPRA dit qu'il n'y a pas de quota à respecter. Pourtant, nous, à la CIMADE, on sait que le chiffre de 30% est à peu près régulier dans les personnes qui sont acceptées comme demandeurs d'asile. Donc toi, tu as fait partie des 70% qui n'ont pas été acceptés. Et donc à ce moment-là, tu as pu faire recours devant la CNDA, donc la Cour
nationale du droit d'asile.
Quand tu es passé devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'est-ce qui s'est passé?
Après le refus à l'OFPRA, j'ai fait un recours à la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Et j'ai pris un avocat qui m'a aussi soutenu. Avec l'avocat aussi, on n'a pas pu convaincre les officiers de la CNDA. Ouais.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as quel statut, toi?
Bon, actuellement, moi, je vis dans la merde, puisque je pensais que la France allait me protéger, oui. Et ça n'a pas été le cas jusqu'à actuellement. Oui. Donc du coup, je suis dans la situation irrégulière. Oui. Ce que j'aimerais dire à la France, aux Français et aux Françaises, moi je suis d'origine ivoirienne. Je suis venu pour que la France me protège. Et où je suis actuellement, je me sens à l'aise, je vis, malgré que je suis dans la situation irrégulière, je vis bien, je veux être intégré dans la société française et puis apprendre les cultures françaises et puis m'intégrer bien. Je suis déjà intégré, mais je vais encore être plus intégré. Mais pour que cela arrive, il faudra que je sois régularisé.
Une question qui revient souvent, Issa, c'est avant que tu partes de Côte d'Ivoire, est-ce que tu imaginais que la vie serait comme ça?
Oui, je savais que ça allait être dur parce que quitter son pays, j'ai quitté mon pays parce que je n'étais pas en sécurité. Donc du coup, je sais où je vais, je ne connais pas. Et je ne connaissais pas ce qui va se passer devant, mais j'avais une petite certitude pour dire que ce n'est pas facile, oui.
Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, à des gens de Côte d'Ivoire qui ont envie de quitter la Côte d'Ivoire et de venir en France?
Si c'est pour préserver la vie, je leur dis, allez-y, préservez votre vie. Mais pour ceux qui veulent partir comme ça, je leur dirais que voilà la condition d'ici. C'est dur, c'est comme ça. On ne peut pas dire à quelqu'un qui fuit pour préserver sa vie de rester.
Pendant le jeu ce matin, à un moment, on a appris que les migrants, donc, qui travaillent très dur en France, souvent travaillent au noir, envoient énormément d'argent dans leur pays. Et que ça, c'est encore plus important que l'aide internationale au développement. Est-ce que autour de toi, tu connaissais toi des familles ivoiriennes qui travaillent en France, qui travaillent dur et qui envoient de l'argent au pays pour permettre à la famille de vivre?
Sur ce sujet, oui, bien vrai pour ceux qui ont de la famille en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde qui sont migrants en France. Si quelqu'un qui a fui son pays et puis l'a laissé ses filles ou bien ses fils et qu'il n'y a personne pour s'en occuper d'eux, il est obligé de travailler pour les envoyer quelque chose à aller à l'école ou à se nourrir. Moi, je trouve ça humain, quoi.
Mais ce qu'on ne sait peut-être pas assez, c'est que souvent, ces personnes qui travaillent comme ça beaucoup pour permettre à leur famille de vivre, eux-mêmes, en France, vivent dans des conditions déplorables.
Ouais, sur ça, moi, je déplore ça. Si pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant là-bas, oui. Qui n'a pas laissé d'enfant derrière lui, pour moi, mieux vaut construire d'abord son avenir ici en France. Et tu vis dans une situation de galère, comment tu peux aider une personne?
Alors, entre migrants, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une fraternité qui s'est développée?
Oui, au sein de Emmaüs, bon, depuis que je suis arrivé, on vit en communion, ça discute bien, ça fait des jeux ensemble.
Là, et tu puis, te sens vraiment en sécurité.
Oui, ici, dès que j'ai franchi le portail d'Emmaüs et je suis rentré à l'intérieur, je me suis senti en sécurité.
On peut en profiter pour lancer un petit appel. Alors, s'il y a dans nos auditeurs des personnes qui ont un peu de temps, un peu de bonne volonté, ils sont tout à fait acceptés comme bénévoles ici à Emmaüs.
Bah oui, ils sont la bienvenue parce que ça leur permet aussi de venir, de comprendre ce qui se passe ici, comment nous vivons, et puis apporter leur soutien dans tous les niveaux.
Eh bien, Issa, un grand merci. Chers auditeurs, à bientôt.
À bientôt, merci.